Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Un individu s'est donc cru autorisé à gifler le président de la République. C'était lors de son déplacement dans la Drôme tout à l'heure. Image qui bien sûr passe et repasse en boucle partout et qui forcément va faire les choux gras pendant des heures et pendant des jours des pompiers pyromanes qui pérorent à longueur de plateau. On va avoir droit, c'est sûr, à l'indignation policée de ceux qui soufflent sur les braises en permanence. Quoi que l'agresseur pense d'Emmanuel Macron, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, quelles que soient les convictions des uns et des autres, il faut dire les choses. En giflant le chef de l'État, cet homme a craché à la figure de toute la République. Il nous a craché au visage à tous, à chacun d'entre nous. Il est sans doute temps que ce pays se réveille et que nous nous rappelions la seule, l'unique règle qui vaille, la seule gifle possible en démocratie s'appelle le bulletin de vote. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
C'est évidemment le titre de la soirée et on va très longuement y revenir.
Deux personnes sont ce soir en garde à vue. Hein. Celui qui a donné cette claque et l'un de ses amis, deux hommes de 28 ans. Des perquisitions sont en cours. Dans ce journal également, le programme des réjouissances pour demain. Et oui, nouvelle journée de réouverture. Et puis il y a du foot ce soir, France-Bulgarie. Tout dernier match de préparation avant l'Euro.
Les invités, 18h15, Laurent Berger, 18h30, Marlène Schiappa qui sera avec nous. La météo, Louis Baudin, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir.
Eh bien, ça y est, le soleil s'installe.
Oui,
du verbe s'installer, premier groupe, et ne plus bouger.
C'est ça, c'est exactement. Ça. Je confirme, c'est la bonne définition, parce que l'anticyclone s'installe durablement. Et donc, avec lui, ce temps sec, ensoleillé et chaud. Bon, il reste quand même quelques orages hein, près des frontières de l'Est. C'est encore le cas ce soir. Et ça sera encore le cas demain après-midi, ou de nouveau entre l'Alsace, les Alpes, en descendant également vers le relief corse. Eh bien, on aura toujours ce risque d'averse, voire d'orage. Mais dans toutes les autres régions, eh bien, c'est le soleil, comme aujourd'hui, qui s'imposera. Quelques brouillards, quelques nuages le matin, notamment près de la Manche, mais c'est tout. Et côté température, toujours des valeurs estivales. Le matin, déjà plus de 10 degrés. Et l'après-midi, 20 à 23 degrés près de la Manche, mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions.
Merci Louis.
RTL Soir.
La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat, la confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique.
Il était 15h tout à l'heure quand Jean Castex a pris la parole à l'Assemblée, appel solennel après cette gifle infligée à Emmanuel Macron.
J'en appelle à un sursaut républicain. Il en va des fondements de notre démocratie.
L'image, bien sûr, a choqué tout le monde, hein, ou presque, on va y revenir. Mais arrêtons-nous d'abord sur les faits. La scène se passe à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Deuxième étape du Tour de France d'Emmanuel Macron. Après un échange avec des lycéens, le président s'offre un bain de foule. Et c'est à ce moment-là qu'un homme lui attrape l'avant-bras et lui donne une claque. À bas la Macronie, entend-on. Bonsoir Jacques Seret, vous êtes sur place pour RTL.
Bonsoir.
Ce bain de foule-là n'était pas prévu au programme.
Oui, pas du tout prévu. Emmanuel Macron était d'ailleurs remonté dans sa voiture après avoir visité le lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage. Mais au dernier moment, avant que son véhicule ne commence à avancer, le président est ressorti, voyant à travers sa vitre que des badauds l'appelaient. Hors presse, sans caméra ni journaliste, le chef de l'État a marché au pas de course vers cette vingtaine de personnes qui l'attendaient. Et c'est là, debout, derrière une barrière de sécurité, que ce jeune homme, environ la trentaine, a asséné cette gifle. Une forte gifle de la main droite sur la joue gauche du président. Au même moment, l'homme prononce ces mots, je cite « Montjoie Saint-Denis abat la Macronie ». Montjoie Saint-Denis, un cri de guerre royaliste. Immédiatement, dans la seconde suivante, les gardes du corps du chef de l'État se jettent sur lui et le plaquent au sol. Malgré ce grave incident, le programme de la journée du chef de l'État n'a en rien été modifié. Emmanuel Macron n'a fait aucun commentaire, se montrant presque détendu une heure plus tard aux côtés de son épouse Brigitte lors d'un déjeuner avec des acteurs de la gastronomie locale. Puis il y a quelques minutes, lors d'un long bain de foule, là aussi improvisé, faisant des selfies dans les rues du centre-ville de Valence.
Jacques Seret, Jacques, merci. Vous restez avec nous. Les condamnations, Amandine, vous nous le disiez, sont ce soir quasi unanimes, intolérables, inacceptables. Ce sont quelques-uns des qualificatifs qui reviennent.
Gifler le président, c'est gifler la République, dit de son côté Damien Abad, le patron des députés Les Républicains. Autre réaction, celle de Marine Le Pen. Elle aussi évoque un geste inadmissible.
Je vous le dis avec une fermeté totale. Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République. Vous voyez, je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République. Et à ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence. Ce comportement est inadmissible et profondément, profondément condamnable dans une démocratie.
La réaction de Marine Le Pen en déplacement en Meurthe-et-Moselle. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Deux personnes, on le disait, ont été interpellées. Deux hommes, que sait-on d'eux?
Alors on sait qu'ils sont tous les deux âgés de 28 ans, qu'il y a parmi eux le gifleur et un de ses amis qui l'accompagnait au moment du boom du bain de foule. Tous les deux habitent la même ville, Saint-Vallier, à 10 km au nord de Tain-l'Hermitage. Ils n'ont aucun antécédent judiciaire. L'agresseur de 28 ans est professeur d'arts martiaux historiques européens, un mouvement qui consiste à rejouer des scènes de combats médiévaux. Les gendarmes tentent d'établir ses motivations. Des perquisitions sont en cours à son domicile. Au moment de son geste, l'homme a crié « Montjoie Saint-Denis », un cri de ralliement du mouvement royaliste. Mais il est trop tôt pour en tirer quelques conclusions que ce soit. Les enquêteurs sont également en train de vérifier sa possible proximité avec le mouvement des Gilets jaunes.
Merci Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Jacques Serret, on revient à présent vers vous dans la Drôme. Après cette gifle, on s'interroge bien sûr tous sur la sécurité du président. Quel était le dispositif qui était prévu aujourd'hui ?
Très important, comme d'habitude, dès ce matin, avant même l'arrivée du président, le quartier de ce lycée hôtelier a été bouclé par de nombreux policiers et gendarmes en tenue et en civil. Nous, les journalistes, avons subi un déminage, avons été fouillés. Autrement dit, comme à chaque déplacement, un chien renifle nos sacs pour vérifier que nous n'avons pas de substances explosives. Il est très probable que ces quelques badauds aient été également fouillés. Mais même avec le dispositif le plus contraignant possible, difficile pour le service de sécurité du président d'anticiper un tel geste. Toujours est-il que cet après-midi et ce soir encore, les rues de Valence sont totalement quadrillées par des cordons de CRS, presque un policier par mètre sur le passage du président. Un dispositif, cette fois, on peut le dire, exceptionnel, comme s'il avait été renforcé depuis ce midi.
Jacques Serret en direct de la Drôme pour RTL. Dans moins de 10 minutes, les réactions, je vous le disais, de Laurent Berger, puis de Marlène Schiappa. Et puis avant, on fait une petite pause et on va vous emmener au Stade de France. C'est ce soir le dernier match, déjà dernier match de préparation pour les Bleus avant l'Euro.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal avec vous Amandine Bégaud. C'est le dernier jour à 21h, dernier jour de couvre-feu à 21h.
Amandine. Et oui, à partir de demain, alors on n'aura pas la permission de minuit, ce sera 23h. Pas mal de réouvertures en perspective, les restaurants à l'intérieur, les salles de sport, mais aussi les piscines. Et oui, jusqu'ici, seuls les scolaires y avaient droit. Demain, ce sera pour tout le monde, mais attention, il faut réserver. C'est bien ça, Franck Hanson ?
Oui, pour pouvoir faire quelques brasses ou du crawl dans le grand bassin, des créneaux de réservation sont donc ouverts, limités par exemple à une trentaine de nageurs toutes les heures et demie au centre Calypso de Wascal. Ils sont déjà très prisés, nous confirme le directeur Olivier Ross.
Nous, on a retenu un peu la centrale de réserve parce qu'on savait que ça allait être un peu la guerre. Il me reste 4 places samedi après-midi. Il m'en reste une dizaine dimanche matin. On a doublé le nombre de nos créneaux pour faire un grand plan de reprise en fait de la natation.
Les écoliers et certains publics, sur raison médicale, ont repris les cours il y a quelques semaines, mais il s'agit maintenant de rattraper le retard avant les prochaines vacances.
J'aime bien nager, ça rafraîchit.
Oui, ça vient, ça rouvre.
Oui, pour aller là-bas pour se baigner et tout. Est-ce que dans la baignoire, on peut pas le faire?
Mais si vous voulez profiter des bains bouillonnants et du sauna, il faudra encore patienter. L'espace détente reste fermé. Port du masque obligatoire dans les vestiaires et rien n'empêche par contre un plongeon dans le grand bain.
Oh oui, Franck Hanson à Wascal, dans la métropole lilloise pour RTL.
Du coup, c'est une deuxième bonne nouvelle que vous nous proposez.
Bah oui.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec le retour des supporters en tribune, ça ce sera dès ce soir, France-Bulgarie au Stade de France. C'est Philippe Sanfourche, le dernier match des Bleus avant le coup d'envoi de l'Euro.
Et oui, l'occasion d'emmagasiner les bonnes ondes à la maison, au Stade de France. Alors c'est vrai, 5000 personnes, c'est peu dans l'immensité de cette enceinte.
Il va falloir les chercher, hein, sur les
80 000
places.
Ils seront tout en bas, on va bien les entendre. C'est donc un petit retour à la vie, à l'énergie en tribune et puis sur le terrain avec un autre comeback, celui du petit bonhomme qu'on adore, le joueur préféré des fans de foot français selon le dernier baromètre RTL Odoxa, le bien nommé
N'Golo Kanté.
C'est des bons souvenirs, ça.
Ah oui, il est petit, il il est gentil.
Voilà.
C'est ça. Et il a croqué Léo Messi.
Léo Messi. Là, c'est l'Euro, il n'y aura pas Léo Messi, mais Kanté, c'est quand même le tout frais vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la finale, le poumon des Blues et des Bleus, choyé par Didier Deschamps.
Avec Chelsea, il a fait des performances de très très haut niveau. Angie est capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain, très bon dans la phase de récupération, capable de se projeter aussi.
Et voilà tout ça derrière les trois artistes, Griezmann, Mbappé, Benzema, c'est à lui d'être le régulateur, le garant de l'équilibre général, test à blanc ce soir, examen grandeur nature dans une semaine à Munich.
Eh ben, ça sera autre chose. Joli programme en perspective. Merci Philippe. Philippe Sanfourche, France-Bulgarie à suivre donc sur RTL dès 20h45, hein, RTL Foot spécial équipe de France, et puis c'est à voir aussi, on le rappelle, sur M6. Roland-Garros ?
Allez, RTL.
Roland-Garros 2021.
Et sur place, on trouve tout de suite Isabelle Langer. Bonsoir Isabelle. On a les noms des deux premières qualifiées pour les demi-finales.
Oui, la première, Anastasia Pavlyuchenkova, a mis 2h30 et 3-7 pour battre la Kazakh Elena Rybakina. À 30 ans, la Russe, 13e mondiale, disputera donc sa première demi-finale à Rouen en Grand Chelem. Elle retrouvera jeudi la Slovène Zidanzek, 56e au classement, qui s'est imposée en 3 manches contre l'Espagnol Badoza. Le premier quart de finale masculin vient lui de débuter. Déjà le break dans la poche d'Alejandro Davidovich Foikina, l'Espagnol, face à l'Allemand Zverev, numéro 6 mondial.
Ah ça alors.
Eh ben oui.
Un petit peu étonnant ça. Bon,
on va retrouver tout à l'heure. Diesel, il va revenir.
La 504 diesel, on n'a rien fait de mieux. Donc, soyons prudents, raisonnables. Merci beaucoup Isabelle, merci Amandine, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Dans un instant, c'est donc Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Laurent Berger.
Bonsoir.
Le chef de l'État a donc pris une gifle tout à l'heure, une image que l'on n'a pas fini de revoir. Laurent Berger, quand vous la voyez, vous, cette image, vous vous dites quoi ?
Je me dis que c'est inacceptable, que c'est choquant. Parce que d'abord, la violence est choquante. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce soit verbal ou physique, la violence est inacceptable dans une démocratie, dans des rapports humains normaux. Et deuxièmement, ça touche le président de la République. Et donc, ça nous touche tous d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça montre que notre démocratie est fragilisée.
Et malade ?
Elle est malade, pas simplement par cet acte-là, mais elle est malade parce que, on le voit bien, ça donne envie de dire halt, stop, arrêtons. Il y a une spirale négative qui est en train de s'opérer. On le voit depuis quelques jours. On a des propos qui sont violents par eux-mêmes, qui sont irrespectueux.
Vous faites allusion à quoi là, Jean-Luc Mélenchon ?
Oui, à d'autres. On a des contre-vérités qui sont dites par les uns et les autres. On a une vidéo hier inacceptable dont on prend connaissance d'un dingue d'extrême droite. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, on se dit attention. Quand est-ce qu'on arrête, quoi ? Quand est-ce qu'on arrête ? Et ça répond de qui ? Enfin, ça dépend de qui.
Parce que vous dites halt, mais vous dites halt à qui ?
Justement, ça dépend de qui. À tous ceux qui ont une parole publique. Ça les oblige. Ça les oblige à faire le débat démocratique de façon apaisée, à respecter son interlocuteur, à ne pas le disqualifier, à ne pas le caricaturer, à ne pas avoir des propos qui peuvent s'apparenter à de la violence. Ça appelle à ça.
Ça veut dire y compris des élus en costume cravate ?
Bien sûr, ouais. Surtout, ça appelle à des responsables syndicaux, des responsables économiques, des responsables politiques, des responsables des médias. Ça invite tout le monde à avoir un peu à revenir dans ce qu'est le jeu du débat démocratique, c'est-à-dire pas de violence verbale, pas de caricature, pas de disqualification de son adversaire, pas de contre-vérité, pas d'appel au complotisme, etc. Donc ça appelle à tout le monde un peu de responsabilité.
Et vous y croyez ou pas ? Vous pensez que le geste d'aujourd'hui, l'agression d'aujourd'hui peut faire réagir les gens ?
Je pense qu'on part de très loin, mais finalement, si ça devait servir qu'à ça, ce geste détestable que je condamne, et je l'ai condamné aussitôt. Si ça devait servir qu'à ça, ça aurait finalement été une bonne chose qu'on puisse avoir cette prise de conscience. Mmh. Je ne sais pas si elle va avoir lieu, mais c'est absolument nécessaire parce que moi, je sens vraiment la spirale négative.
Elle vous fait peur. Il y a des gens qui disent on est au bord de la guerre civile, on est dans une situation de tension extrême, etc. Vous partagez ce point de vue-là ?
Moi, je ne crois pas quand on va voir les gens. Je me déplace toutes les semaines régulièrement. Je ne crois pas qu'on soit au bord de la guerre civile. Je ne crois pas qu'on soit dans des gens qui sont hystérisés ou en colère. Je crois que ce qui est renvoyé montre ça. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire, c'est pas tant les gens qui sont les citoyens lambda. Moi, j'ai beaucoup circulé ces dernières semaines qui ne sont pas spécialement énervés. Ils ont des préoccupations, des problèmes, des difficultés, des ressentis, parfois des ressentiments, mais dans un cadre démocratique. Mais je crois que le débat public est devenu n'importe quoi.
Est-ce qu'Emmanuel Macron a une responsabilité dans ce climat ?
Dans le climat, il en a une, comme chacun d'entre nous, qui a une parole
mais
publique.
Mais il est président de la République depuis 4 ans.
Il en a une particulière. Je tiens tout de suite à préciser, il n'en a aucune dans ce qui lui est arrivé aujourd'hui. On est bien clair.
C'était pas ma question, ni une allusion.
Non, mais j'imagine bien, mais je préfère qu'on se soit clair. Et dans le climat, oui, il faut avoir des paroles apaisantes. Et je crois qu'on a besoin de paroles apaisantes, de paroles qui respectent les uns les autres. Mais objectivement, dans ces derniers temps, c'est pas celui qui a le plus abusé des paroles disqualifiantes à l'égard.
Qui sont ceux qui ont le plus abusé de ces paroles disqualifiantes ?
L'extrême droite, je crois qu'elle le fait en permanence. Moi, j'ai encore entendu ce matin sur une antenne un responsable d'extrême droite dire des choses qui étaient fausses sur les prérogatives, par exemple, d'un conseil régional, sur le fait de tout jeter à la poubelle. Enfin, vous savez, quand on a un adversaire politique, il faudrait que tout ce qu'il fait soit nul. Mais on est chez les fous, en fait. Ça n'est pas jamais la vérité. Donc, l'extrême droite a une forte responsabilité parce qu'il joue sur ses ressentiments, sur ses colères, sur sa façon de se comporter. Je crois qu'à chaque fois qu'un responsable politique donne le sentiment que celui qui est en face de lui, qui n'est pas d'accord avec lui, est un ennemi plus qu'un adversaire politique, est responsable. Donc, je pense que chacun doit s'interroger. L'erreur, ce serait de se dire tout le monde, moi, je suis pur et les autres n'ont pas à s'interroger. Et ont juste à s'interroger.
On entend l'importance des mots, la différence entre un ennemi et un adversaire. Est-ce que vous redoutez la campagne présidentielle qui s'ouvre, vous ?
Je la redoute à deux niveaux, sur le climat politique, là.
Ouais.
Et puis que ce soit un jeu de chamboule-tou, finalement, pas un jeu d'adhésion à des idées. Puis je la redoute sur le niveau de débat démocratique, c'est-à-dire que si on est capable de mettre les vrais sujets. Vous voyez, on parle, et c'est très bien, c'est normal, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ce qui concerne les salariés, les citoyens, c'est leur vie au travail, c'est est-ce qu'ils ont un emploi de qualité, est-ce qu'ils vont avoir un logement, comment on vit les uns avec les autres, malgré nos différences. Autant de questions qui sont des vrais sujets de débat présidentiel et sur lesquels il faut élever le débat public. C'est ça qui est extrêmement important.
Et bien justement, on va en parler, parce qu'un peu plus tôt dans la matinée, Emmanuel Macron avait parlé de la réforme des retraites, alors que l'on a appris, grâce au Conseil d'orientation des retraites, le corps que le déficit serait un peu moins pire que prévu cette année. 18 milliards quand même en 2020, pas d'équilibre au plus tôt avant 2030, même s'il reste très élevé, hein, ce déficit. Voici donc ce qu'a dit Emmanuel Macron sur les retraites.
À horizon des années à venir, le sujet des retraites existe pour notre pays. Et on ne va pas dire, comme diraient les enfants, que c'est moins pire que prévu. C'est quand même très mauvais. Et il y a un déficit de plusieurs milliards d'euros. Est-ce qu'on peut le laisser à nos enfants ? Non. Est-ce que c'est la priorité du moment ? Est-ce que c'est mon objectif de cette semaine ? Non.
Qu'est-ce que vous comprenez à ce que l'on vient d'écouter ?
Ce que je comprends, c'est que... D'abord, moi, ce que je comprends de ce que dit le corps, c'est qu'il n'y a pas le feu à l'édifice. Il y a un déficit, il ne faut pas le négliger.
Important.
Mais il n'y a pas le feu à l'édifice. Ce que je comprends de ces propos, c'est que le président de la République dit qu'il y aura besoin d'une réforme des retraites. Ce que je crains, c'est qu'elle soit purement financière, budgétaire. Moi, je souhaite que dans les années à venir, il y ait une réforme qui mette davantage d'égalité, de justice dans le système des retraites.
On a l'impression de revenir un an en arrière, là. Hein,
oui, mais justement. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit un des sujets dont je parlais tout à l'heure, des élections présidentielles. Il n'y a pas d'espace, soyons clairs. Il n'y a pas d'espace dans les mois qui viennent, pour différentes raisons, et notamment parce qu'il y a les élections présidentielles et qu'on est dans un climat post-traumatique, d'une certaine manière, avec ce qu'on vient traverser, qu'on traverse encore comme épreuve de crise sanitaire. Il n'y a pas d'espace pour un débat apaisé dans notre pays autour des enjeux des retraites.
Donc vous dites que c'est après 2022 que chacun dise ce qu'il veut faire, et c'est pour
exactement,
après 2022.
Et les citoyens, si on veut être pleinement dans une démocratie, et les citoyens trancheront à ce moment-là. Mais remettre le sujet des retraites à l'automne, dans le climat actuel, et alors que les travailleurs viennent de traverser une épreuve comme l'ensemble des citoyens, c'est juste complètement fou. Je le dis, c'est complètement fou. C'est un risque de conflit à tous les étages.
Vous participerez ou pas ? Parce que FO a prévenu, il y aura un conflit social majeur si la réforme vient sur le tapis maintenant.
Ce qu'on commande, c'est peut-être c'est des phrases dont on ne sait pas quel est le contenu de quoi que ce soit et s'il y aura un contenu de quoi que ce soit. Donc moi, commencer à appeler en donnant une date ou je ne sais quoi, où on ferait ça.
Non, mais
ce
que vous dites est clair. Vous dites qu'il ne faut pas que ça soit un sujet avant 2022.
La CFDT, oui, bien sûr, la CFDT.
C'est un casus belli ?
Oui, très clairement. S'il y a une mesure d'âge, quelle qu'elle soit, avant 2022, je pense, avec la CFDT, c'est un casus belli. Et on verra bien à ce moment-là ce qui se passera si le gouvernement persiste dans cette voie ou entre dans cette voie. Pour l'instant, il n'y est pas.
Est-ce qu'on vous a dit, des conseillers, peut-être des proches du président, du Premier ministre, est-ce qu'ils vous ont dit, en off ou en on, comme on dit, t'inquiète pas, il n'y aura pas de réforme avant la présidentielle, ou est-ce que vous êtes dans le flou ?
Non, alors qu'il est, moi j'ai fini d'être naïf, alors qu'il est, avec les petites phrases depuis maintenant 8 jours sur le sujet, je ne suis pas totalement serein. Mais ce qui a été dit, c'est qu'il n'y avait rien d'arbitré. Et moi, je crois, mais je le dis, et je le dis au gouvernement aujourd'hui et au président de la République, il n'y a pas de voie de passage d'ici l'élection présidentielle pour faire une réforme des retraites, quelle qu'elle soit.
Donc pour vous, c'est clair, c'est non. Dernière question, à partir de demain, les entreprises vont décélérer sur le télétravail, les salariés vont pouvoir revenir progressivement sur site, comme on dit. Est-ce que c'est une raison de vous réjouir ou un sujet d'inquiétude pour vous, sachant que c'est quand même les sociétés, les entreprises qui vont avoir la main pour organiser tout ça?
Bon, faut se réjouir qu'on retrouve une vie normale, parce que ça va avec. Par contre, maintenant, il faut discuter et négocier les conditions de ce retour en présentiel. Alors, il va y avoir un effet sifflet jusqu'à la fin de l'été, sans doute. Mmh. Mais il y a à la fois des salariés qui ont hâte de revenir et des salariés qui n'ont pas envie vraiment de revenir et pour qui le télétravail est quelque chose de positif. Ça veut dire rien ne sera comme avant. Il va falloir négocier des accords télétravail pour faire mettre à un certain nombre de salariés.
Mais ça n'aurait pas dû être fait avant, ça?
Dans beaucoup d'entreprises, il y en a. Dans beaucoup d'entreprises, il y en a. Dans d'autres, il n'y en a pas encore. Parce que dans certaines entreprises, les employeurs considèrent qu'ils peuvent le faire de façon unilatérale. C'est faux. Pendant cette période, les travailleurs ont travaillé, ont été chez eux, ont parfois traversé de dures épreuves et ils ont répondu présents. Et donc, il faut maintenant discuter avec eux les conditions de cette reprise d'activité et cette condition de mise en œuvre d'un télétravail en mode, entre guillemets, normal. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans les entreprises. On a un cadre pour le faire. On a signé un accord avec le MEDEF et d'autres organisations syndicales et patronales à la fin de l'été, l'année dernière, pour donner un cadre de ce que doit être le télétravail. Quelles tâches sont télétravaillables, le volontariat, la réversibilité, les conditions de travail quand on est chez soi, etc. etc. Donc, on a ce qu'il faut pour rentrer dans la négociation. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, et je le dis aux employeurs, c'est de décider tout seul la façon dont le travail va s'organiser demain, parce que les salariés attendent autre chose.
Et d'imposer des jours de congé, des RTT aux salariés en leur disant « il faut que vous travailliez cet été parce qu'on a besoin de se refaire la cerise économiquement », ça c'est acceptable ou pas ?
Non, mais d'abord, c'est considérer que les salariés, quand ils reviennent, notamment ceux de l'hôtellerie et la restauration, ils n'auraient qu'une envie, c'est de partir en congé. Mais je vais vous dire comment ils le vivent, parce qu'ils me l'ont dit. Ils le vivent comme une insulte. Ils ont envie de retravailler. Et donc, arrêtons de faire croire que les salariés seraient tous des gens qui n'auraient qu'une envie, c'est d'être chez eux et de ne pas travailler. Ils vont travailler pendant cet été. Et ils savent tous, quand ils travaillent dans l'hôtellerie, le café et le restaurant, que pendant l'été, ils travaillent, notamment dans les zones touristiques. Donc, arrêtons de jouer avec. Il faudrait imposer des jours de congé, des jours RTT, etc. Ils seront là, comme ils ont été là depuis le début de la crise.
De la souplesse et de l'écoute. Merci beaucoup à vous, Laurent Berger, d'être venu ce soir dans RTL. Merci. Soir. Dans un instant, c'est Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, qui est l'invitée d'RTL Soir. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL.
18h30.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et le rappel des titres avec vous, Amandine Bégaud.
Et ces condamnations unanimes après cette gifle infligée à Emmanuel Macron dans la Drôme, inacceptable, choquant, dit ce soir sur RTL Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Ça touche le président de la République, ça nous touche tous, dit-il, et d'ajouter, ça montre que notre démocratie est fragilisée. Un peu plus tôt à l'Assemblée, Jean Castex avait appelé à un sursaut républicain. Ce soir, deux personnes sont en garde à vue. Celui qui a donné cette claque, un professeur d'arts martiaux historiques, et l'un de ses amis, deux individus âgés de 28 ans, originaires de la Drôme. Sans antécédent judiciaire, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. Il y a du foot aussi, ce soir, France-Bulgarie. Dernier match des Bleus avant l'Euro. Ce sera à suivre sur RTL dès 20h45. Et puis à Roland-Garros, Isabelle Langer, c'est l'Allemand Zverev qui est sur le court.
Ah, il n'est pas encore bien réveillé de sa sieste, hein, j'ai l'impression, parce que ça fait deux fois qu'il perd son service. Il avait réussi à débreaker une fois, mais pour le moment, eh bien, c'est Alejandro Davidovich-Foyquina, l'Espagnol, qui fait la course en tête. Il mène 3-2 après près d'une demi-heure de jeu. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Isabelle.
La météo, Louis Baudin, qu'est-ce qu'alors ?
Oui, c'est simple, hein, c'est du grand soleil.
Oui, je suis polyglotte.
Quelle brume près de la Manche. Quelques orages l'après-midi près des reliefs de l'Est, un peu comme aujourd'hui. Et avec ce soleil, eh bien, de la chaleur. Hein, demain après-midi, 20 à 22 degrés près de la Manche, mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions.
Merci à vous, Louis. L'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, ça va ?
Vous êtes surpris d'être là ?
Non, bah, toujours. Hein, bon.
L'actualité,
je fais de la radio,
évidemment.
Je suis surpris d'être là. Ouais.
Vous avez vu la Une du Canard ce soir ? Macron soupire, ce Tour de France, j'en ai déjà ma claque. Pas mal.
Visionnaire.
Ouais, pas mal. Cette gifle, donc, c'est l'actualité, hein, cette gifle reçue par Emmanuel Macron.
Oui. Il a pris une gifle dans la Drôme, mais également dans la joue. Les images sont terribles. C'est une nouvelle preuve, Thomas, du relâchement des gestes barrières en province. Mélenchon nous avait pourtant prévenu, il y aura des actes de violence avant les élections. C'était écrit. En tout cas, Mélenchon doit être bien soulagé parce qu'au passage, ça fait oublier ses conneries. La France insoumise a dénoncé cet après-midi le terrorisme d'extrême droite. Et oh, c'était pas Kennedy à Dallas non plus. Brigitte Macron n'est pas la nouvelle Jackie Kennedy. On se calme, hein. On parle d'une gifle chronométrée à 12 km/h. Hein. Le jeune agresseur a crié « Bonjour à Saint-Denis, à bas la Macronie !» Donc ce jeune agresseur a 517 ans, « Bonjour à Saint-Denis !» Mais Saint-Denis, pas dans le 9-3. Hein, il ne vit pas en HLM, visiblement, il vit dans un château médiéval avec un pont-levis. Et il n'a pas un scooter, il a un fier d'estrier.
Bon, en tout cas, il y a eu énormément de réactions à cette gifle, ça ne vous a pas échappé.
Oui, le terme de gifle est plutôt bien choisi, Thomas. J'ai vu l'avare, la
le
vidéo,
ralenti.
Ouais,
ouais.
Le ralenti. Le poignet est cassé, le bus n'accompagne pas la frappe. On est donc effectivement plus sur de la gifle d'esthéticienne que sur de la grosse calotte de routier. Beaucoup de tweets, dont celui d'Alexandre Benalla. De mon temps, ça ne serait pas arrivé. C'est vrai que les gars prenaient la gifle avant d'y avoir pensé. Le pape François pense attendre l'autre joue, Emmanuel. Alors, patience, la deuxième claque, ce sera dans 15 jours au régional.
Oh, quelle analyse politique.
Brigitte Macron, je trouve aussi. Brigitte Macron, à 44 ans, Emmanuel est encore victime de harcèlement scolaire. Et puis, la réaction du technicien, le Bruce Lee français, Jean-Claude Duss.
On va commencer par un exercice assez primordial, parce que ça évite d'en prendre plein sa gueule en pompette, à savoir le blocage.
Oui, le blocage.
Ah oui,
vous rappelez de la scène, mais là, Emmanuel a eu un problème de blocage, visiblement.
Bon, on va maintenant parler d'une promesse du candidat Macron à l'époque. C'est la PMA pour toutes, ouais. La procréation médicalement assistée. Elle était examinée hier à l'Assemblée.
Oui, je vais vous faire une confidence.
J'ai toujours peur quand vous faites des confidences.
Oui, vous pouvez. J'ai le permis moto.
Oui.
J'ai les cheveux courts.
Oui.
Je ne mets pas de soutien-gorge.
Oui.
Et pourtant, je ne suis pas une femme homosexuelle.
Mais qui êtes-vous alors?
Vous me le dites si je suis trop dans le cliché sur les femmes homosexuelles.
Moi non, pas du tout.
Cela dit, je suis favorable à la PMA pour les femmes homosexuelles. Disons que je pensais à mon émission préférée, l'heure des pros, entre Zemmour candidat, Mélenchon qui dérape, la PMA pour toutes, la gifle au président. C'est Noël avant l'heure, comme disait Anémone.
On ne sait que choisir.
Ah ben oui, on ne sait que choisir. Je vais regarder demain. Alors, Christine Boutin, cri-cri d'amour, elle n'est pas trop pour la PMA pour toutes. Elle est pour le schéma médiéval classique, un papa, une maman, un papa dans maman.
Oui.
Les petits couples hétéros normaux, comme Monique Olivier et Michel Fourniret. Des gens voilà, classiques, comme les deux Ligonnès.
Ah ben oui.
La famille Courgeot, la famille Mister Freeze. On sait que dans ce cadre-là, l'enfant va être bien. Il aura un peu froid, mais il va être bien.
Vous avez fini dans l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard.
C'est possible.
Un petit prisme fédive. Revenons à Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez bien.
Oui.
Ses propos ont choqué. Il a fait le lien entre la campagne électorale et les attentats. Tout ça est écrit d'avance. Beaucoup parlent de dérapage. J'aime bien avoir votre analyse.
Oui, alors ça n'est plus du dérapage à ce niveau. On est sur de la belle cascade, là. On est sur du Fast and Furious. Jean-Luc Mélenchon, c'est Rémi Julien, mais à la grande époque. Mais Mélenchon, c'est aussi Elisabeth Tessier. Sans le lifting, il a affirmé que dans la ça c'est de la prévision, à un an, à Louis Baudin.
Pourquoi vous regardez Louis Baudin?
Il ne saurait pas faire des prévisions à un an,
non.
Louis Baudin. Lui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais Mélenchon, il a dit, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre, avant de rajouter... Et pour les Sagittaires ascendant Écureuil, Jupiter rentrera dans votre lune et vous offrira de belles opportunités. Bon, enfin, avec des conneries pareilles, tu vas surtout te prendre l'élection dans l'Uranus. Bon, une fois de plus.
Cela dit, Jean-Luc Mélenchon a contre-attaqué. Il a dénoncé un appel au meurtre dans la vidéo d'un youtubeur nommé Papacito.
Oui, donc le gars qu'il menace de mort s'appelle... Papacito. Il a un nom de tube de l'été, le gars. Papacito.
Papacito.
Ouais, Papacito, c'est chanté par Grégoire Caranelli. Voilà. Il l'a menacé de muerte.
Oui.
Y avait tué Juan-Luc Mélenchon. Mm. Parole de Papacito. On se croirait sur Radio Latina, on passe à Peggy. Hein. Alors, putain, le niveau de la politique. Donc on a le choix entre Macron et McFly et Carlito, Marine et ses frères au facho, ou Mélenchon et Papacito.
On sait que choisir.
Ah, oui, on sait que choisir, une fois de plus.
On s'arrête là ou je dis ce que vous me faites dire là après?
Bah si, allez-y. Okay.
On termine par cette terrible nouvelle, ce horrible cataclysme. Roger Federer n'est plus.
Il n'est plus, c'est fini.
Enfin, il n'est plus à Roland-Garros.
Oui.
Il a préféré écouter son corps et déclarer forfait. Quel panache.
Je me sens trahi par Federer.
Qui?
Je me sens trompé. J'ai l'impression d'être Anne Sinclair.
Oh,
on
non,
va dire la vérité.
Écoute,
Roger nous quitte car il préfère Vin Bledon. Alors bien sûr, Thomas Soto, le taliban suisse, le fan radicalisé de Roger, va nous expliquer que Federer reste invaincu à Roland-Garros en 2021.
Il part sur une victoire.
Voilà, il est invaincu. Voilà. Pourtant, tout avait été prévu pour la ligne Renault du tennis mondial. Roland-Garros s'était adapté à son grand âge. Escalator, tapis roulant, baignoire avec la petite porte qui s'ouvre sur le côté et même chaise à trous sur le court. Mais que voulez-vous, Roger,
t'as dit chaise à trous?
Ben si, on a vérifié.
Il n'a pas une micro-vessie non plus, Roger.
Ah ben là, on vit apparemment. C'est mes infos. Alors, Roger écoute son corps. Il parle à son genou. Alors ça, c'est pas de l'arthrose, ça s'appelle Alzheimer, ça s'appelle être zinzin. Federer s'en va aux portes d'un huitième de finale de Roland-Garros, le fameux troisième tour, ce Graal, cet Everest qui fait tant rêver les joueurs français.
Quand vous faites Jean-Marie Le Pen quand vous dites cet Everest.
Non, c'est pas ça, Le Pen, c'est ça, monsieur Zoto. Ben oui, c'est le troisième tour, ça fait rêver un joueur français.
C'est dit que
la légende raconte qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, un joueur français a entrevu le troisième tour et qu'est échappé le Rio, Yannick Noah. C'était il y a très longtemps. 83.
1983.
C'est fou, hein. C'est la Marie Myriam de Roland-Garros.
C'est bon, ça.
Allez. Ils mourront avant l'heure.
Si merci, Philippe Cavrivière. Ben, revenez demain si vous n'avez pas été interné d'ici là. Non, vous revenez jeudi, parce que demain c'est qui?
C'est Valérie Trierweiler, enfin.
Et le réalisateur qui a fait la musique, c'est Grégory Caranoni.
Ben,
intéressez-vous un peu à vos équipes. Vous avez dit Grégoire.
Oh, non, j'ai dit Grégory. Alors, on passera la VAR, on passera le ralenti, tiens.
Allez, à tout de suite, dans un instant, Marlène Schiappa, invitée d'RTL Soir.
Thomas Soto. RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h41, elle est la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté. Marlène Schiappa est en direct dans RTL Soir. Merci et bienvenue à vous, Marlène Schiappa.
On
va
merci,
parler
bonsoir.
Évidemment de cette gifle, cette claque reçue par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un acte isolé, un acte anecdotique ou c'est beaucoup plus grave que ça?
C'est vrai qu'il y a un climat de violence, et notamment à l'endroit des personnes dépositaires de l'autorité, des forces de l'ordre, des élus, des maires. Mais je crois que là, dans le cadre du déplacement du président de la République, c'est un acte isolé. Et d'ailleurs, d'habitude, l'accueil est très bon pour le président de la République, et on voit que juste après cela, d'ailleurs, les Françaises et les Français reviennent à la rencontre, au dialogue avec le président d'une manière apaisée et enthousiaste.
Mmh. Et quand vous voyez, vous entendez la classe politique qui est unanime ce soir, qui condamne ce geste, vous y êtes sensible ou vous dites on est dans le bal des hypocrites?
Non, bien sûr, j'y suis sensible. Je pense que quel que soit notre camp, nous devons collectivement nous mobiliser pour faire baisser le niveau de violence de notre société qui est encore trop élevé. Et bien sûr, je me réjouis que l'ensemble de la classe politique prenne ses responsabilités et appelle sans aucune ambiguïté à condamner cet acte terrible. D'ailleurs, j'étais tout à l'heure aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Tous les responsables politiques qui ont pris la parole de tous les bords sans exception ont condamné cela. Et je veux dire que quand le président de la République est agressé, c'est chaque Français qui reçoit un coup à travers lui.
Jean Castex, il a donné une importance un peu plus solennelle à cet événement, à cette agression. Et toujours à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, il a appelé un sursaut républicain. Qu'est-ce qu'il faut lire? Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ces mots de sursaut républicain, Marlène Schiappa?
Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, nous, avec Emmanuel Macron, nous avons fait campagne sur la bienveillance. Dans les meetings, on refusait de siffler nos adversaires politiques, on refusait l'invective personnelle, et on a voulu tenter d'insuffler de la bienveillance dans le débat politique, en disant qu'on peut être en désaccord, même profond, avoir des débats, même passionnés, mais toujours dans le respect de son adversaire et sans attaque ad hominem. Bah, force est de constater que la vie politique, elle est fondée sur des codes violents qui existent, qui sont entretenus. Vous avez beaucoup de responsables politiques qui eux-mêmes entretiennent ces codes. Quand vous avez des manifestations où on brûle des effigies de responsables politiques, du président, qu'on appelle à la décapitation, je crois que cela a un sens. Et puis, il y a une responsabilité des réseaux sociaux sur lesquels la haine, y compris à l'endroit des élus, prolifère chaque jour.
Et est-ce qu'il n'y a pas une forme, je dis bien une forme de responsabilité d'Emmanuel Macron qui voulait réconcilier les Français? C'était son programme électoral, c'est son programme d'élection. On voit où on en est. Est-ce qu'il n'y a pas là... un échec politique, quelque part, quand on voit à quel point la société française est fracturée aujourd'hui.
Mais moi, je veux saluer le courage du président de la République qui, malgré cet acte isolé dont on parlait, a continué à dialoguer avec les Français, à aller à leur rencontre. Ce dialogue direct, c'est la marque de fabrique.
Oui, mais sur la réconciliation avec les Français et entre les Français. Est-ce que c'est pas un point faible du quinquennat?
Non, c'est une tâche extraordinairement difficile. Les fractures françaises, elles ont été analysées. L'archipélisation de la société, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, a aussi été analysée. Le président a toujours dit qu'il défendait un triptyque: libérer, protéger, unir. Et moi, ce que je veux retenir, c'est que le président de la République ne renonce à rien de son ambition pour unir le pays. Vous voyez, il reçoit ce coup, et bien juste après, il reste, il pourrait se mettre fin à ce déplacement, mais non, il reste à la rencontre des Françaises et des Français qui lui demandent des selfies, parfois des accolades, qui veulent échanger frontalement avec le président de la République. Souvenez-vous, la grande marche pendant l'élection présidentielle, le grand débat national, maintenant le Tour de France, ce dialogue direct avec les Français, c'est vraiment ce qui a porté le président Emmanuel Macron à la présidence et ensuite pendant son quinquennat.
Cet homme a giflé le chef de l'État, on l'a vu. Rétrospectivement, on tremble Marlène Schiappa et on se dit qu'il aurait aussi pu le poignarder, lui tirer dessus. Est-ce qu'il y a un problème sur l'organisation de la sécurité du président de la République aujourd'hui, lors de ses déplacements notamment? Est-ce qu'il y a une faiblesse?
Non, mais c'est un défi pour l'équipe de sécurité quand le président de la République refuse de rester enfermé dans le palais de l'Élysée ou de rester enfermé dans une forme de tour d'ivoire et qu'il a à cœur chaque jour d'être dans les territoires, sur le terrain, auprès des Français, parmi eux, avec les citoyens. Eh bien, la sécurité, elle a réagi immédiatement puisqu'on voit que cet homme a été tout de suite, dans la seconde, identifié, immobilisé,
oui, mais après
et que
coup,
le président de la République
coup,
a été protégé.
Après coup, pardon, après coup, après avoir reçu la claque.
Mais vous savez, ce dialogue, et pour avoir fait moi-même des bains de foule et des déplacements de cet ordre-là, ce dialogue direct avec les Français, il passe aussi parfois par le contact. Mmh. Et donc les gens, je vous le disais, ils veulent des accolades, vous toucher, faire des photos, et c'est bien normal. C'est aussi ça, la discussion franche et directe, et nul ne pouvait anticiper ce qui allait se produire. Moi, j'ai fait beaucoup de déplacements avec le président de la République.
Les règles de sécurité ne vont pas changer pour la suite de son tour de France ? Le programme
ça, il appartient au service de sécurité de l'Élysée de le dire. Je ne le sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait de très nombreux déplacements avec le président de la République pendant la campagne présidentielle et ensuite, quand je suis toujours dans son gouvernement avec lui en tant que président. Mmh. À chaque fois, le président veut aller parler aux gens. Même si vous avez des personnes qui lui disent de rester dans son coin, de rester entouré d'un cordon de protection, le président veut être à la rencontre des Français, leur rencontre. Vous savez, là, on vit une période de déconfinement, ça n'a échappé à personne. Les restaurants, les terrasses rouvrent. C'est le retour des jours heureux. Les Français sont en train de finir leur déclaration d'impôt. 80% d'entre nous ne paieront plus de taxes d'habitation grâce à la politique menée par Emmanuel Macron.
On sent que la politique reprend dessus, là. Hein, oui.
Non, c'est pas ça. C'est pour vous donner les grands enjeux de ce Tour de France. Le plan de relance est là. Le président va sur le terrain voir comment le plan de relance est déployé et s'il y a des choses à ajuster pour l'année qui reste de son quinquennat au service des Français.
J'ai encore deux petites questions sur ce sujet-là. Les deux personnes qui ont été interpellées, est-ce que vous en connaissez le profil? On dit que c'était peut-être des royalistes, peut-être de la mouvance des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ce soir?
Non, pas plus que ce qui a été donné à votre antenne. Maintenant, ce sera à la justice de communiquer les informations dont elle disposera. Moi, je n'ai pas d'autres informations à communiquer.
Autre affaire, c'est la vidéo de menace visant Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui a demandé si le gouvernement allait enfin déclencher la justice contre le youtubeur Papacito et sa vidéo d'appel au meurtre. C'est ce qu'il a tweeté il y a 2 heures. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Non mais Jean-Luc Mélenchon a lui-même procédé au signalement de cette vidéo et donc les services de Pharos qui sont au ministère de l'Intérieur ont été saisis. Je me suis moi-même assurée que les services de Pharos soient bien mobilisés. Avec Gérald Darmanin, nous avions d'ailleurs multiplié les moyens de Pharos. Moi, j'aimerais que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas l'indignation que uniquement quand ça le touche. Quand il y avait des manifestations avec des députés LFI qui appelaient à décapiter le président de la République, je n'ai pas entendu de condamnation. Quand j'ai eu des dizaines de gilets jaunes radicalisés, agressifs, en bas de mon domicile personnel, hurlant des insultes et des menaces en présence de mes enfants en pleine nuit, je n'ai pas entendu la France Insoumise le condamner. Au contraire, ils ont ricané. Moi, j'appelle chacun à prendre ses responsabilités pour faire baisser le niveau de violence de notre société, et ce, en direction des élus de tous bords, sans exception.
Voilà, et je vous donne la réaction toute chaude d'Emmanuel Macron, qui s'est adressé au Dauphiné libéré. Ne laissons pas des individus ultra-violents prendre possession du débat public. Ils ne le méritent pas. Et puisque vous avez fait un peu de politique, j'en fais un tout petit peu aussi pour la dernière question. Laurent Berger était dans ce studio il y a quelques minutes et il s'interroge toujours. Y aura-t-il, oui ou non, une réforme des retraites avant la présidentielle ?
Mais ça, c'est pas à moi de le communiquer, certainement pas ce soir et dans ce contexte. J'observe que le président de la République a pris la parole sur cette question en disant que si réforme il y avait, elle ne pourrait pas être la même que celle qui était dans un premier temps envisagée. Ce Tour de France, il sert aussi à prendre le pouls des préoccupations des Français et à entendre
Alors,
leur retour, y compris sur ce sujet.
À votre avis, puisque vous êtes une ministre qui a l'oreille d'Emmanuel Macron, faut-il faire cette réforme avant la présidentielle ou après ?
Mais ce n'est pas à moi de m'exprimer sur ce sujet, je suis ministre chargée de la citoyenneté. Il y a des ministres qui sont en train de travailler sur l'autonomie, sur la santé, sur l'économie et les finances. Il leur appartiendra, avec le Premier ministre, de s'exprimer sur ces questions-là.
Merci en tout cas Marlène Schiappa d'avoir été en direct
Merci
dans RTL Soir. Merci à vous.
Avec plaisir, merci RTL.
Merci. Il y a du foot ce soir. Julia Molcou ne sera pas au stade pour assister à France-Bulgarie, mais du coup, elle a décidé de donner une saveur toute balkanique à sa culture de l'actu. Elle arrive.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
France-Bulgarie, que de mauvais souvenirs pour Louis Baudin, 93, France-Bulgarie, éliminatoire de la Coupe du Monde des États-Unis, pour les États-Unis. Ce soir, c'est un match de préparation. Julia, c'est pour vous l'occasion, bonsoir Julia Molcou, de nous proposer une culture de l'actu spéciale Bulgarie.
Ce soir, si comme Louis Baudin, vous êtes devant le match, alors vous entendrez Mila Rodino, chère patrie en bulgare, qui est donc l'hymne national et ce, depuis 1964. Le texte de l'hymne est un poème de Tsvetan Radoslavov, écrit en 1885, alors qu'il partait en guerre contre les Serbes. Mais la culture bulgare ne compte pas que des histoires de guerre, non. Elle compte surtout l'une des plus belles histoires d'amour de la mythologie. Orphée. Orphée qui charmait les humains mais aussi les animaux les plus féroces, les arbres et les pierres, rien qu'au son de sa voix et de sa lyre, était né dans le Rhodope, chaîne de hautes montagnes située dans le sud de la Bulgarie. Son épouse Eurydice, alors qu'elle se baigne un matin, est pourchassée par un méchant berger et en s'enfuyant marche sur un serpent mortel. Eurydice meurt sur le coup. Orphée, fou de désespoir, se rend à la porte des enfers et parvient à charmer de sa voix le passeur Charon, le chien à trois têtes et même Hadès, le dieu des morts, qui l'autorise à ramener Eurydice dans le monde des vivants à une seule condition, qu'il ne la regarde pas tant qu'elle n'aura pas atteint l'autre rive. Malheureusement, au dernier moment, il se retourne et perd à jamais celle qu'il aime. Orphée, accablé de chagrin, ne cessera jamais de chanter le prénom de son épouse. Le mythe d'Orphée et d'Eurydice va inspirer les plus grands compositeurs comme Gluck.
C'est quoi, ça nous fait du bien, je trouve. Ouais. Hein, c'est bien, hein, je suis d'accord. Je vous écoute quand même. Hein, mais...
Ça, c'est l'opéra de Gluck. Il va aussi inspirer les poètes, Victor Hugo, Marguerite Yourcenar, sans oublier les cinéastes, et notamment les cinéastes français, Jean Cocteau, Alain Resnais ou encore Jacques Demy. Et alors là, attention. Jacques Demy, en 84, sort un film qui s'appelle Parking. Dans son film, Orphée est une rockstar, incarnée par Francis Huster. Eurydice est jouée par Keiko Ito, une actrice japonaise. Le couple n'est pas sans rappeler évidemment John Lennon et Yoko Ono. Quant à la bande originale, elle est signée Michel Legrand. C'est Francis Huster.
Je préférais juste avant la musique.
Bon, c'était pour l'anecdote. Bon, la culture bulgare est immensément riche. C'est à l'Empire bulgare que l'on doit par exemple l'invention de l'alphabet cyrillique au 9e siècle. C'est aussi une très grande terre de littérature dont l'histoire commence au Moyen-Âge, mais aussi un pays qui compte plus de 300 bâtiments historiques qui datent de la Renaissance bulgare, c'est-à-dire le 19e siècle. Et puis la Bulgarie, évidemment, c'est une terre de musique. Donc ça, c'est un chœur, parce que l'une des grandes traditions de la musique bulgare,
c'est important d'avoir du chœur,
c'est évidemment la musique chorale. Mais il y a également une mezzo-soprano complètement incroyable. Elle s'appelle Smiljana Zaharieva et elle arrive tout de suite.
On est un peu en bulgare, mais c'est pas grave.
Parlez-nous
des yaourts.
Non, non, mais en fait, Smiljana Zaharieva, c'est une chanteuse folklorique bulgare qui possède l'un des timbres les plus puissants au monde. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Elle est capable de tenir pendant 2 minutes 113,8 décibels, c'est-à-dire l'équivalent d'un concert de rock ou d'un orchestre symphonique. Voilà, et en juin 2019, elle s'est vue remettre le très précieux diplôme du Guinness des records, ce qui est quand même pas rien.
Bon, mais qui est pas grand-chose. Et puis, bien sûr, il y a plus française. Non, mais ça, c'est un peu ringard, le
113 décibels.
Ça lui a fait très plaisir.
Sur l'échelle de Céline Dion, ça fait quoi, 113 décibels?
Ça fait très fort.
Ça fait très fort.
Encore plus fort.
La plus française des chanteuses bulgares, Sylvie Vartan.
Mais oui, Sylvie Vartan, née à Iskretz, dans le centre de la Bulgarie, et qui arrive à Paris en 1952, arrachée à son pays par les violences du régime de Staline, interprète inoubliable de la Maritza, hymne pour tous les exilés bulgares.
La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne.
Vous savez ce que c'est la Maritza? Eh bien, c'est le fleuve qui traverse la Bulgarie.
C'est le fleuve qui traverse la Bulgarie. Je sens qu'on va être à la bourre à 19h, je sais pas pourquoi. Parce que là, on est obligé d'attendre le refrain un petit peu.
Pour la bonne cause.
Ouais.
Mais c'est mieux que Francis Huster quand il chante. Il faut quand même le reconnaître.
Je suis sûr que vous ne connaissez pas Parking Slade.
Non. La... dans RTL Soir. C'est notre côté FIP, France Culture.
On en a besoin de temps en temps.
Ça allait loin. C'est notre petit côté karaoké du soir.
Tu arrêtes de taper avec ton stylo.
Bah, je vous laisse.
On va parler de la météo avec Louis Baudin.
À demain.
Merci. À demain. Louis, il va faire beau.
Oui, il va faire très beau.
Racontez-nous.